Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui nous arrivons à l'étude numéro 23 et les deux thèmes seront premièrement les obstacles à la prière, deuxièmement qui peut se permettre de prier. Combien d'obstacles ne doivent-ils pas être surmontés quand nous voulons approcher du trône de la grâce? Oui, en effet, ils sont effectivement nombreux. Le diable ne veut pas que nous prions et il essaye de nous en empêcher par tous les moyens. Il sait très bien que nous pouvons accomplir davantage de choses par la prière que par notre travail. Aussi, il préfère nous laisser faire toutes sortes de choses plutôt que de nous voir prier. Cependant, nous n'avons pas besoin de craindre les forces du mal ni de nous battre avec elles si notre regard n'est dirigé que vers le Seigneur. Oui, voyez-vous, même les saints anges sont plus puissants, heureusement, gloire à Dieu, que les anges déchus. Et nous pouvons, en toute confiance, laisser aux armées célestes le soin de nous protéger. Nous croyons que nous devons aux forces du mal nos pensées vagabondes qui, si souvent, font échouer nos prières. Car à peine sommes-nous à genoux, et cela me concerne aussi, qu'on nous rappelle quelque chose qui aurait dû être fait ou dont nous devons d'abord nous occuper tout de suite. Et ces pensées viennent de l'extérieur, et elles sont la plupart du temps carrément des suggestions faites par des esprits diaboliques. Voyez-vous, le seul remède contre les pensées vagabondes est de fixer notre esprit sur le Seigneur. La prière va de pair avec un enfant de Dieu et avec celui qui veut vivre comme un enfant de Dieu doit vivre. La grande question est, est-ce que j'héberge en mon cœur Par exemple, des ennemis de ma vie de prière? Y a-t-il en moi des traîtres? Dieu ne peut nous faire bénéficier de ses meilleurs dons spirituels tant que nous n'avons pas rempli les conditions relatives à la confiance et à l'obéissance, ainsi qu'au ministère. Ne prions-nous pas souvent pour des bénédictions que nous ne sommes pas aptes à recevoir? Osons-nous, chers amis, honnêtement, osons-nous avec nous-mêmes être honnêtes quand nous sommes seuls en présence de Dieu? Osons-nous carrément dire et très sincèrement: sonde-moi, ô Dieu, et vois. Y a-t-il en nous quelque chose qui retient la bénédiction de Dieu pour nous et par nous? Nous discutons le problème de la prière, mais nous-mêmes sommes souvent le vrai problème qui devrait être discuté et disséqué. Nous n'allons pas maintenant citer les textes bibliques servant ordinairement à montrer ce qui fait obstacle à la prière. Nous désirons seulement que chacun ait un aperçu de son propre cœur. Aucun péché n'est trop petit pour faire obstacle à la prière si nous n'acceptons pas d'y renoncer. S'il n'y a pas de pureté, il n'y a pas non plus de prière. et où il n'y a pas de prière, il n'y a pas non plus d'eau du ciel à boire. Et cette vérité est enseignée si clairement dans l'Écriture sainte qu'il serait vraiment très surprenant que quelqu'un essaye de conserver à la fois le péché et la prière. Même David, notre célèbre roi David, a reconnu jadis « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, alors le Seigneur ne m'aurait jamais exaucé. » Psaume 66, verset 18. Et Ésaïe, il nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Oui, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Donc, nous devons naturellement reconnaître que ce qui est fait obstacle, ou ce qui fait vraiment obstacle à la prière, c'est le péché. Je répète, c'est le péché en nous, et non un manque de bonne volonté de la part de Jésus-Christ à nous exaucer. Soyons honnêtes, la plupart du temps, c'est un soi-disant petit péché qui a l'air de rien, mais qui gâche et détruit notre vie de prière. Cela peut être, premièrement, le doute, le fameux doute. Oui, le manque de foi est peut-être le principal obstacle à notre prière. Notre Seigneur nous dit que le Saint-Esprit convaincra le monde du péché. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, selon Saint Jean chapitre 16, verset 9. Chers amis, nous ne sommes certes pas du monde, mais il n'y a-t-il pas pourtant dans la pratique, une grande incrédulité en nous. L'apôtre Jacques, en écrivant à ses croyants, a fait la mention suivante. « Mais qu'ils demandent avec foi, sans douter, car celui qui doute qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Jacques, chapitre 1, verset 6 à 8. Certains n'ont pas faute de demander. Je dis bien, certains ne reçoivent pas faute de demander. Et d'autres, ils n'ont pas parce qu'ils ne croient pas. Ça, c'est le pire. Cela peut paraître un peu surprenant que nous ayons tant parlé de l'adoration et de l'action de la grâce avant d'en venir, par exemple, à la demande. Cependant, voyez-vous, si nous avons un aperçu de cette glorieuse majesté de notre Seigneur, ainsi que des miracles de sa merveilleuse grâce et de son amour, notre incrédulité et nos doutes ne vont-ils pas alors se dissiper comme la brume au lever du soleil ? N'était-ce pas la raison pour laquelle Abraham ne faiblit pas, il ne douta pas par incrédulité, mais il donna à Dieu la gloire due à son saint nom en ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Romains chapitre 4, versets 20 et 21. Deuxièmement, ensuite, nous avons le fameux « moi ».« Moi ». Peut-être la racine de tout péché, c'est le fameux « moi ». Nous avons tendance, même en ce qui concerne nos bonnes œuvres, à être tellement égoïstes. Comme nous hésitons à renoncer à quelque chose dont notre « moi » est avide. Et pourtant, nous savons qu'une main pleine ne peut prendre les dons de Christ. N'est-ce pas pour cela que notre Sauveur, dans la prière qu'il enseigna en premier, nous associa à tous les autres ? Notre est le premier mot. Notre Père, donne-nous, délivre-nous. L'orgueil, alors, croyez-moi, l'orgueil fait vraiment obstacle à la prière. Car prier est une chose très humiliante, que vous le croyez ou pas. L'orgueil est haïssable aux yeux de Dieu, n'oubliez jamais cela. Ne devons-nous pas à tout prix éviter que l'orgueil, ainsi que sa haïssable et vilaine sœur, qui est la jalousie, ne ruine notre vie de prière? Dieu ne peut faire pour nous beaucoup de grandes choses qui nous réjouiraient si elles nous tournent la tête. Comme nous pouvons être insensés, chers amis, et parfois, si nous insistons, Dieu nous donne quand même ce que nous demandons, c'est vrai. Mais attention, cela peut nous coûter notre sanctification. Il est dit dans le psaume 106, verset 15, quelque chose d'assez sérieux. Là, il est dit, il leur accorda ce qu'ils demandaient. Certaines versions allemandes disent ce qu'ils demandaient avec insistance. Et puis, il envoya le dépérissement dans leur corps. Il leur envoya le dépérissement dans leur corps. Psaume 106, verset 15. Que Dieu nous en préserve, chers amis, qu'il nous protège contre nous-mêmes. Attention! Voyez-vous, si une chose n'est pas dans la volonté de Dieu, comme pour les chardes de Saint Paul, insister à outrance et avec volontarisme, tel qu'un enfant criseux, c'est un manque total d'humilité et cette méthode-là ne donnera jamais un résultat positif. Nous ne pouvons et nous ne devrions absolument pas obliger Dieu, l'obliger à nous donner tout ce que nous désirons, surtout s'il y a un orgueil camouflé en humilité. Avez-vous entendu cela ? S'il y a un orgueil qui est camouflé en humilité, alors là, ça ne marche pas. Une autre chose très importante, voyez-vous, ceux qui critiquent toujours les autres se sont éloignés de Christ. Ils peuvent encore lui appartenir, mais ils ont perdu son esprit d'amour. Chers amis, si tu as une nature critique, certain, surtout pour toi-même, pour moi-même, et jamais pour ton prochain. Et là, tu auras un champ d'action assez grand et toujours de quoi faire, crois-moi. C'est ainsi que nous pouvons parfois éprouver de la difficulté à garder le silence à l'égard des hérésies modernes. Ne nous est-il pas dit de combattre par la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes ? Parfois, nous devons parler, mais le faisons-nous toujours dans un esprit de charité? That is the question. Même dans nos prières, nous devons strictement éviter de découvrir les fautes chez les autres. Lisons donc l'histoire de John Hyde, dans laquelle il pria pour le fameux frère froid. Froid de cœur, vous l'avez compris. Croyez-moi, l'esprit critique détruit la sanctification de notre vie plus facilement que n'importe quoi d'autre, parce que il constitue un péché qui est particulièrement respectable, dont nous ne sommes si facilement victimes. Nous avons à peine besoin d'ajouter que lorsque un croyant est rempli de l'Esprit de Christ, qui est la charité, il ne fera jamais part aux autres du comportement non chrétien qu'il peut avoir discerné chez ses amis. Voyez-vous, notre Seigneur, il a subi l'opposition des pécheurs vis-à-vis de lui, mais il ne se plaignait jamais et ne le fit pas savoir à d'autres. Pourquoi le ferions-nous? Il faut que notre moi soit détrôné si Christ doit avoir la souveraineté. Il ne doit pas y avoir d'idole dans notre cœur. Rappelons-nous ce que Dieu a dit de certains chefs religieux. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Me laisserai-je consulter par eux? Ézéchiel chapitre 14, verset 3. Quand notre seul but est la gloire de Dieu, alors Dieu peut exaucer nos prières. Christ lui-même, plutôt que ses dons, devrait être ce que nous recherchons. Fais de l'éternité délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Je répète, Christ lui-même, plutôt que ses dons, devrait être ce que nous recherchons. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume, chapitre 37, verset 4. Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Je répète, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 21 et 22. Aujourd'hui, comme dans les premiers temps de la chrétienté, il est vrai que des hommes demandent et ne reçoivent rien, tout simplement parce qu'ils demandent dans le but de satisfaire leur passion, leur égoïsme, c'est-à-dire de vivre leur moi. Jacques, chapitre 4, verset 3. Je répète, il est vrai que des hommes, des femmes, demandent et ne reçoivent rien, parce qu'ils demandent tout simplement dans le but de satisfaire leur passion, c'est-à-dire de vivre leur moi. Jacques chapitre 4, verset 3. Troisièmement, la dureté de cœur peut être l'un des plus grands obstacles de la prière. L'esprit de charité est une condition à laquelle est liée la prière du croyant. Il est donc impossible d'avoir une relation convenable avec Dieu si celle que l'on a avec ses semblables ne l'est pas. L'esprit de prière est essentiellement un esprit de charité. Notre Seigneur ne dit pas seulement « Aimez vos ennemis », le faisons-nous vraiment? Mais il dit également, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils et des filles de votre Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 44 et 45. Voyez-vous, notre vie de tous les jours est la meilleure indication sur notre puissance dans la prière. Dieu réagit à nos prières non pas d'après l'esprit et le don ou le temps que nous exhibons, mais en priant publiquement, par exemple, avec un temps hautains, mais nous devons prier d'après l'esprit qui domine notre vie quotidienne, et pas seulement pour se faire voir et se faire entendre. Les gens échauffés, ça c'est un mot, les gens échauffés, vous avez compris, c'est des gens qui peuvent être violents, griseux, ne peuvent faire que des prières froides. Si nous n'écoutons pas le commandement de notre Seigneur et ne nous aimons pas les uns les autres, nos prières sont sans valeur absolue. Si nous persistons à ne pas nous réconcilier, notre prière est une perte de temps. On a même rapporté récemment que l'éminent doyen d'une cathédrale aurait dit qu'il y avait des gens auxquels on ne pouvait jamais pardonner. Si telle est son opinion, il doit alors employer une forme abrégée du Notre Père. Ah oui, croyez-moi, Christ nous enseigne à prier « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Et il va encore plus loin. Il déclare, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 15. Nous espérons que ce qui a été rapporté sur ce vénérable doyen n'est pas exact. Puissions-nous toujours montrer l'Esprit de Christ et ne pas mettre en jeu le pardon dont nous avons tant besoin. Combien de nos auditeurs, n'ayant pas la moindre intention de pardonner à leurs ennemis, et même pas à leurs amis, qui les ont peut-être blessés, peuvent malgré cela avoir dit aujourd'hui la prière du Seigneur, le Notre Père. Voyez-vous, certains chrétiens n'ont jamais donné de véritable chance à la prière dans leur vie. Cela n'est pas dû à une insécurité consciente, mais à un manque de réflexion. Ceux d'entre nous qui prêchent et enseignent en sont responsables. Nous avons davantage tendance à enseigner des doctrines plutôt que des actes. Ah oui, c'est plus facile. La plupart des gens veulent faire ce qui est bien, mais ils accordent beaucoup plus d'attention aux grandes choses qu'aux petites négligences. Oui, il y a des petites négligences dans la pratique de la charité. Donc notre Seigneur va même jusqu'à nous dire de ne pas présenter notre offrande à Dieu le Père, si nous nous souvenons que notre frère ou notre sœur a quelque chose contre nous. Saint Matthieu chapitre 5 verset 23. S'il ne veut pas accepter notre offrande, est-il plausible qu'il va accepter nos prières? J'en doute. C'est seulement quand Job cessa de se quereller avec ses ennemis, la Bible les appelle ses amis, que le Seigneur rétablit Job dans son premier état et il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job chapitre 42 verset 10. Même notre vie de famille, oh oui, notre vie de famille peut faire obstacle à nos prières. Observons ce que l'apôtre Pierre a dit quant à la manière dont nous devons vivre à la maison. Et ceci afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 1 à 10. Nous désirons encourager nos auditeurs à demander à Dieu d'examiner leur cœur et de leur montrer qu'il ne s'y trouve pas de racines d'amertume, je dis bien des racines d'amertume, envers quelqu'un. Nous voulons donc tous faire ce qui est agréable à Dieu. Notre vie spirituelle y gagnerait énormément si nous pouvions prendre la résolution d'essayer de ne pas prier tant que nous n'avons pas fait tout ce qui est en nous, en notre pouvoir, pour créer carrément la paix et l'harmonie entre nous et ceux avec lesquels nous sommes un peu ou beaucoup querellés, chicanés. Chers amis, lorsque vous êtes debout et que vous faites votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, eh bien, pardonnez, afin que votre Père Céleste, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos fautes. Est-il dit dans Marcus, dans Saint-Marc, chapitre 11, verset 25. C'est ce que nous dit notre Maître. Ne devons-nous pas alors soit pardonner, ou soit même cesser de prier? Avez-vous compris cela? Soit que nous devons pardonner, ou alors si nous ne pouvons pas pardonner, alors nous devons cesser, nous ne devons pas prier. À quoi cela servirait-il qu'un homme forme le projet de passer tout son temps à prier, alors que la dureté de son cœur fait carrément obstacle à la véritable prière? Combien le diable doit rire de nous, rire de nous, oui, parce que nous ne reconnaissons pas cette vérité-là. La parole de Dieu nous dit que l'éloquence, le savoir, la foi, la libéralité et même le martyre ne nous servent à rien. Notons-le bien. Si notre cœur n'est pas rempli d'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, tant que Dieu nous donne l'amour. Quatrièmement, en refusant de faire notre part, nous pouvons empêcher Dieu d'exaucer nos prières. L'amour fait naître la compassion et le zèle à la vue du péché et de la souffrance, aussi bien ceci dans son propre pays que dans les pays lointains. Et c'est ainsi que saint Paul a été ému et outré jusqu'au fond de l'âme à la vue de la ville qui était pleine d'idoles. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 16. Nous ne pouvons pas prier sincèrement que ton règne vienne si nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons pour hâter la venue de ce royaume par nos dons, nos prières et notre ministère. Notre prière pour la conversion des incroyants ne peut pas être sincère si nous n'avons pas le désir de rendre témoignage ou bien d'essayer d'amener les incroyants sous l'influence de l'Évangile. Un jour, le fameux docteur Moody, voulant commencer une campagne d'évangélisation, participa à une réunion de prière dans laquelle on demanda à Dieu de bénir ce travail. Or là, il y avait plusieurs hommes très riches qui étaient présents. L'un d'eux, archimillionnaire, commença à prier Dieu d'accorder les fonds nécessaires. S'il te plaît, Seigneur, accorde-nous les fonds nécessaires afin que les frais encourus puissent être couverts. Alors là, Moody l'a interrompu immédiatement. Il a dit, nous n'avons pas besoin d'importuner Dieu avec cela, a dit Moody très tranquillement. Car il me semble que nous pouvons exaucer cette prière nous-mêmes. Vous avez compris ce qu'il voulait dire par là, puisque c'était plein de millionnaires. Cinquièmement, si nous ne voulons prier qu'en secret, cela peut également faire obstacle à l'exaucement de nos prières. La fréquence avec laquelle notre Seigneur attire l'attention sur la nécessité de prier en commun d'être un dans la prière, C'est pourtant assez frappant. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Si deux d'entre vous, s'accordent, cela leur sera accordé. Donc, il faut absolument que au moins deux d'entre nous puissent s'accorder sur cette terre pour demander une chose très précise et elle leur sera accordée si c'est dans la volonté de Dieu et si c'est avec humilité et non pas pour le moi orgueilleux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon saint nom, je suis au milieu d'eux. Saint Matthieu, chapitre 18, versets 19 et 20. Et sixièmement, la louange à Dieu, elle est aussi importante que la prière. Il nous faut entrer dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Donc, célébrons-le, bénissons son saint nom, nous dit le psaume chapitre 100, verset 4. À une certaine époque de sa vie, le Hyde priant se sentit poussé à demander à Dieu de lui accorder chaque jour 4 âmes par son ministère. 4 nouvelles âmes, pas seulement de prêcher à ceux qui sont convertis depuis longtemps. Et quand certains jours, ce nombre n'était pas atteint, le Hyde priant, comme on l'appelait, il avait un tel poids sur le cœur qu'il en ressentait une véritable douleur et il ne pouvait ni manger ni dormir. Oui, il priait alors le Seigneur de lui montrer quel était l'obstacle en lui-même et il reconnaissait invariablement que c'était tout simplement le manque de louange. Donc, louez Dieu avec corps, âme et esprit. N'ayez pas peur. Ce n'est pas par hasard que nous sommes si souvent enjoints à nous réjouir dans le Seigneur. Dieu ne veut pas d'enfants malheureux et aucun de ses enfants n'a de raison de s'affliger. Saint Paul, l'homme le plus persécuté, il était quelqu'un qui pouvait même chanter de cantiques, chanter des cantiques de louanges qui sortaient de ses lèvres, souvenez-vous, quand il était en prison ou hors de prison. Il louait son Sauveur jour et nuit. Même l'ordre de ses exhortations est très significatif. Il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 à 18. C'est donc la volonté de Dieu, pensons bien à cela, ce n'est pas facultatif, pas du tout. En effet, soyez joyeux, priez et rendez grâce. C'est l'ordre selon la volonté de Dieu pour toi comme pour moi. Rien ne plaît davantage à Dieu que notre louange et rien ne peut apporter autant de bénédictions à celui qui prie que le fait de rendre grâce à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume, chapitre 37, verset 4. Un missionnaire qui avait reçu de très mauvaises nouvelles de chez lui était fort abattu. La prière n'aidait pas à dissiper l'obscurité de son âme. Il alla voir un autre missionnaire, sans aucun doute voulait-il trouver du réconfort. Et là-bas, il a vu sur le mur une carte portant ces mots. Essaye l'action de grâce. Aussi, il le fit, et en un instant, toutes les ombres disparurent et ne revinrent plus jamais. Louons-nous suffisamment le Seigneur pour que nos prières puissent être exaucées? Si nous mettons vraiment notre confiance en lui, nous le louerons en tout temps. Quelqu'un qui un jour entendit Luther prier, il a dit « Dieu de miséricorde, quel esprit et quelle foi y a-t-il dans les paroles de Luther ?» Il prie Dieu avec autant de référence, plutôt de révérence, vous l'avez compris, ou si je le répète, Luther prie à Dieu avec des révérences tout plein de son cœur, que s'il était vraiment en sa divine présence, et ceci avec espérance et avec confiance, aussi ferme que s'il adressait et qu'il s'adressait à un père ou à un ami. Tant que ses prières étaient considérées comme tellement ferventes et tellement profondes et sincères, comme s'il s'adressait à un père ou à un véritable ami. Or, pour cet homme de Dieu, aucun obstacle à la prière ne semblait exister. Après tout ce qui a été dit, nous constatons donc que chaque chose peut être résumée en une phrase. Tous les obstacles à la prière sont dus simplement à notre ignorance de l'enseignement de la parole de Dieu en ce qui concerne une vie de sanctification que Dieu a vraiment prévue pour tous ses enfants. Ou, alors là, c'est le manque de disposition à nous consacrer entièrement à lui. Et s'il y a le manque de disposition à nous consacrer à notre Seigneur, alors là, il ne faut pas nous attendre à des exaucements. Si nous pouvons vraiment dire à notre Père Céleste, « Tout ce que je suis et que je possède t'appartient, mon Dieu, mon Sauveur », alors là, nous pouvons nous dire « Tout ce qui est mien est tien ». N'est-ce pas merveilleux cela? Car tout ce que nous possédons, au fond, vous le savez, lui appartient. Parce que ce que nous possédons, ça nous est prêté. En tout cas, c'est moi qui le comprends ainsi. Chers amis, qui peut, au fond, se permettre de prier? Seul un enfant de Dieu, peut vraiment prier. Oui, seul un fils peut chercher la présence du Père. Il est merveilleusement vrai que chacun peut l'invoquer pour demander aide, pardon et miséricorde. Néanmoins, ceci peut à peine être appelé une prière. La prière est bien davantage. Prier, c'est demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant, selon le psaume de David, 91, verset 1, 91, verset 1. Et c'est aussi faire connaître à Dieu nos besoins et nos désirs, tendre les mains de la foi pour recevoir ses dons. La prière est la conséquence de l'action du Saint-Esprit qui vit en nous. C'est une communion avec Dieu. Or, il ne peut guère y avoir de communion entre un roi et un rebelle. Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, hein? Lisez 2 Corinthiens chapitre 6, et je crois verset 14, si je ne me trompe pas. Seuls, nous n'aurions aucun droit à prier. Nous n'avons accès auprès de Dieu que par Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 2, verset 18, et au chapitre 3, verset 12. La prière est beaucoup plus que le cri d'un homme qui se noie, d'un homme en train de sombrer dans le tourbillon du péché. Seigneur, sauve-moi, je suis vraiment perdu. Je ne peux rien faire. Donc, délivre-moi, sauve-moi. N'importe qui peut réagir ainsi. C'est une prière qui ne manque jamais d'être entendue si, pour autant qu'elle est sincère, la réponse ne tarde jamais, car aucun homme ou femme ne peut être un proscrit de Dieu à moins qu'il ne veuille lui-même pas vraiment prier sincèrement. Toutefois, ce n'est pas une prière au sens biblique, me semble-t-il. Car voyez-vous, il paraît que même les lions qui rugissent après leur proie quand ils ont très faim cherchent une nourriture venant de Dieu. Or, ce n'est pas forcément une prière pour autant. Voyez-vous, nous savons que notre Seigneur a dit « Car quiconque demande reçoit » Matthieu chapitre 7, verset 8. Mais à qui a-t-il dit cela? Il parlait à ses disciples, me semble-t-il, selon saint Matthieu chapitre 5, verset 1 et 2. Oui, la prière est une communion avec Dieu, le foyer même de l'âme, comme quelqu'un l'a tellement bien décrit. La prière, c'est le privilège d'un enfant. Seuls les enfants de Dieu peuvent s'attendre du Père Céleste, les choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Et notre Seigneur nous a enseigné que dans nos prières, nous pouvions appeler Dieu notre Père. Il n'y a certainement que les enfants qui peuvent faire usage de ce merveilleux nom. Saint Paul a dit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Galates chapitre 4, verset 6. C'était justement la pensée de Dieu lorsque il dit aux consolateurs, les consolateurs de Job, « Ah oui, Job, mon bien-aimé serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui, Job, par égard pour lui seul, que j'accepterai vos prières. » Job chapitre 42, verset 8. Il semble qu'il n'aurait pas été accepté ses prières en priant personnellement. Toutefois, dès que quelqu'un devient un enfant de Dieu, il doit entrer à l'école de la prière, car il prie, dit le Seigneur, de quelqu'un qui venait de se convertir. Je répète, le Seigneur a dit qu'il prie, il a dit ça de quelqu'un qui venait de se convertir. Actes chapitre 9, verset 11. Donc, ceux qui sont convertis, sauvés, nés de nouveau, ne sont pas seulement autorisés à prier, mais ils doivent prier chacun pour soi et naturellement aussi pour les autres. Cependant, tant que nous ne pouvons pas vraiment appeler Dieu notre Père, nous ne pouvons pas non plus demander d'être traités comme des enfants, comme des filles, comme des héritiers et co-héritiers de Christ. Avant cela, nous n'avons aucun droit. Sommes-nous d'avis que c'est dur, que c'est peut-être même injuste? Non, non, non. C'est tout à fait naturel. Un enfant n'a-t-il pas de privilèges? Cependant, qu'il n'y ait pas de malentendu, chers amis. Ceci ne dresse aucune barrière entre Dieu et les hommes. Personne n'est exclu du royaume des cieux à cause de cela. Car n'importe qui, n'importe où, peut vraiment s'écrier et crier « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Oui, n'importe quelle personne se trouvant en dehors même du troupeau de Christ, en dehors donc de la famille de Dieu, tout aussi mauvaise que cette personne soit, ou tout aussi bonne qu'elle croit peut-être être, peut devenir un enfant de Dieu à l'instant en écoutant maintenant les paroles que je viens de dire. Donc un regard à Christ dans la foi peut suffire. Regarde et vis. Car Dieu ne dit même pas « vois », il dit seulement « regarde ». Retourne tes regards vers Dieu le Père. Comme les chrétiens de la Galatie devinrent-ils fils de Dieu? Comment, chers amis, sont-ils devenus des fils de Dieu? Eh bien, c'est par la foi en Christ. Car il est dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 26. Christ est donc prêt à faire de tout homme un fils de Dieu dès le moment où il se tourne vers lui dans une véritable repentance et la foi. Cependant, nous n'avons aucun droit, même pas en ce qui concerne la providence de Dieu, tant que nous ne sommes pas ses enfants. Nous ne pouvons pas dire avec confiance et certitude « Je ne manquerai de rien », à moins de pouvoir dire avec confiance et certitude « L'Éternel est vraiment mon berger ». Un enfant, toutefois, il a droit à l'aide, il a droit à l'amour, il a droit à la protection, il a droit à l'assistance de son père. Or, un enfant ne peut entrer dans une famille qu'en y étant né de nouveau. Nous devenons des enfants de Dieu en naissant de nouveau, en étant nés d'en haut, selon Saint Jean chapitre 3, versets 3 et 5. C'est-à-dire en croyant au Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean chapitre 3, verset 16, où il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons dit tout cela à titre d'avertissement et éventuellement afin d'expliquer pourquoi de nombreuses personnes considèrent la prière comme étant tout à fait vaine. Cependant, nous ne voudrions pas manquer d'ajouter que Dieu, bien souvent, entend et exauce même, et ça paraît incroyable, la prière de gens qui n'ont pas le juste droit de prier, qui ne sont même pas ses enfants, et peut-être même qui nient son existence. L'Évangile cite le cas d'un assez grand nombre d'incroyants qui venaient à Jésus-Christ en le priant de les guérir. Et le Seigneur n'en renvoyait jamais un seul, sans la bénédiction demandée. Jamais. Ils venaient comme des mendiants et non comme des enfants. Même si les enfants doivent d'abord être rassasiés, les autres mangent tout de même, cependant, souvenez-vous, les miettes. Oui, souvent même, plus que les miettes qui leur sont accordées de plein gré. Et c'est ainsi que Dieu exauce souvent la prière d'un croyant pour des bienfaits temporels. un cas bien connu pourrait peut-être servir d'illustration. Un homme qui a raconté qu'il avait été athée pendant de très nombreuses années. Bien que incroyant, il avait même chanté dans une chorale pendant 40 ans. C'est incroyable. Étant donné qu'il aimait la musique, il faisait partie donc d'une chorale chrétienne. Mais lui-même était absolument athée. Or, un jour, son père est devenu très gravement malade. Et c'est alors que ce fameux athée, totalement incroyant, se jeta à genoux et il s'écria « Oh Dieu, si tu existes vraiment, montre-moi ta puissance et délivre mon père de sa douleur. » Dieu entendit le pitoyable appel de cet homme et il a mis fin aux douleurs immédiatement. Donc cet athée loua Dieu et s'empressa d'aller voir un pasteur afin de trouver le chemin du salut. Il est aujourd'hui, cet homme-là, qui était athée, il est profondément chrétien et il sacrifie tout son temps au service de son Sauveur qu'il a trouvé récemment. Oui, en effet, Dieu est plus grand que ses promesses et bien davantage disposé à exaucer que nous le sommes, hélas, à prier. La prière la plus remarquable sortant des lèvres d'un incroyant est peut-être celle dont nous avons connaissance grâce à un récit de Caroline Frey, qui est l'auteur du livre « Christ, notre exemple ». Bien qu'ayant une grande beauté, qu'ayant même beaucoup de richesses, ayant même le prestige et des amis, eh bien, Caroline Frey, elle ne trouvait pas de satisfaction du tout. Et dans sa grande misère, elle se mit à chercher Dieu. Pourtant, quand elle commença à s'adresser à lui, ce fut plutôt avec une expression de haine et de rébellion ouverte contre Dieu. Écoutons cette femme qui nous parle dans son témoignage, car ce n'est pas la prière d'un enfant, surtout pas un enfant de Dieu. Elle a dit au Dieu, « Si tu existes, je ne t'aime pas, je ne te recherche pas, je ne crois même pas que le bonheur puisse se trouver en toi. Mais je suis tellement misérable, donc, s'il te plaît, donne-moi ce que je ne cherche pas. Donne-moi ce que je ne désire pas. Si tu le peux, alors rends-moi heureuse. Je suis aussi malheureuse qu'on puisse l'être. Plus malheureux que moi, il n'y a pas. Je suis lasse de ce monde. S'il y a quelque chose de mieux, alors donne-le-moi. » Ah là là, quelle prière incroyable! J'oserai jamais faire une telle prière. Pourtant, voyez-vous, Dieu a entendu cette prière et il a même exaucé cette terrible prière. Oui, il pardonna à cette âme égarée et il l'a rendit complètement heureuse et fructueuse dans un nouveau ministère auprès de lui. Pour ceux qui étaient perdus, ne devrions-nous pas, ma chère sœur pasteur, ou mon cher frère, à cause de cela, modifier un peu notre question et demander « Qui a le droit de prier ?» Nous devons nous rappeler que personne ne peut aller vers son Père céleste sans honte et en étant pleinement confiant s'il ne vit pas comme un enfant de Dieu doit vivre. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'un père gaspille ses faveurs en les accordant à des enfants égarés. Seul un enfant croyant et sanctifié peut prier par l'Esprit et avec intelligence, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, rien, à part le péché, ne peut faire obstacle à nos prières. Nous, ses enfants, nous avons le droit de nous approcher de Dieu à n'importe quel moment et en tout lieu. Et il, Dieu, comprend chaque forme de prière. Nous avons peut-être un merveilleux don d'élocution, nous permettant, comme pour saint Paul, de déverser un torrent d'actions de grâce, de prières et de louanges. Il se peut également que nous ayons, comme l'apôtre Jean, une tranquille et profonde communion avec Dieu, semblable à celle d'un bien-aimé. Nous avons peut-être un brillant érudit, donc, que nous connaissons, tels que John Wesley, et par contre, le contraire, un humble cordonnier comme William Carey. Or, ils sont pareillement les bienvenus au trône de la grâce. L'influence à la cour céleste ne dépend ni de la naissance, même si elle est royale, ni de l'éclat, pas plus que des actes héroïques, mais seulement de l'humilité. Je répète, seulement de l'humilité, ainsi que de notre entière dépendance de notre Seigneur. Le fameux Moody attribuait ses étonnants résultats simplement aux prières d'une femme toute simple, qui était malade et même qui est restée inconnue. En vérité, les ferventes prières venant de tranquilles chambres de malades pourraient même amener un réveil dans tout un pays. Oh, que tous ceux qui sont réduits au silence parlent à haute voix. Une femme chrétienne célèbre a parcouru le monde dans une chaise roulante, croyez-moi, paralysée complètement des membres, et elle en a amené au Seigneur des incroyants pour qu'ils soient sauvés par centaines en chaise roulante, s'il vous plaît. Donc, ne commettons pas l'erreur de supposer que certaines gens n'ont pas le don de la prière. Un brillant étudiant de l'université de Cambridge m'a demandé si la prière n'était pas un don, et à savoir un don que peu de personnes auraient. Il est parti du principe que tout le monde n'est pas doué pour la musique. C'est vrai. Et il supposait que l'on ne pouvait pas non plus s'attendre à ce que chacun puisse prier. Néanmoins, ce qu'il y avait de particulier en la personne de George Müller, ce n'était pas qu'il avait le don de la prière, pas du tout, mais c'est qu'il priait tout simplement. Ceux qui n'ont pas la parole facile peuvent, comme Dieu le déclare à Aaron, ils peuvent soutenir par leur intercession même secrète, ceux qui parlent. Il faut que nous ayons une grande foi si nous voulons avoir devant Dieu une grande puissance de prière, bien que Dieu soit plein de miséricorde et aille souvent au-delà de notre foi. Henry Martyn était un homme de prière. Pourtant, sa foi n'était pas égale à ses prières, mais pas du tout. Il avait même déclaré un jour qu'il s'attendait plutôt à ce que quelqu'un ressuscite des morts que de voir un brahman se convertir. Or, l'apôtre Jacques ne dit-il pas qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur? Et ce fut le cas de Henry Martyn. Il mourut sans être témoin qu'un brahman accepta Christ comme sauveur. Il avait coutume de se retirer jour après jour dans une pagode totalement isolée, pour prier. Cependant, il ne croyait pas du tout, à la conversion d'hommes et de femmes qui étaient des brahmanes. Quelque temps après sa mort, pourtant, il y avait des brahmanes et des mahométans qui sont devenus des frères en Christ et qui sont venus de toutes les parties de l'Inde, de la Birmanie et de Ceylan, s'agenouillèrent dans la même pagode de ce Henry Martyn. D'autres avaient prié avec beaucoup plus de foi que Henry Martyn. Or, qui peut, chers amis, se permettre de prier? Oui, qui? Nous le pouvons, mais le faisons-nous vraiment? Le Seigneur Jésus-Christ peut-il nous regarder avec plus de plaisir et de joie que au temps où il prononça les paroles « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, et ceci afin que votre joie soit parfaite. » Saint Jean, chapitre 16, et je crois verset 24. Si notre Seigneur était dépendant de la prière, et ceci afin de pouvoir accomplir son œuvre avec puissance, à combien plus forte raison le sommes-nous? Oui, il priait parfois avec de grands cris et des larmes. Personne veut vraiment croire cela. Pourtant, c'est écrit dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Et nous, chers amis, avons-nous jamais versé une seule larme en priant? Laissons donc, nous aussi, monter vers Dieu cette merveilleuse prière qui dit « Fais-nous revivre et nous invoquerons ton saint nom. » Psaume chapitre 80, verset 19. L'exhortation de saint Paul à Timothée peut être valable pour nous tous. Ah oui, il a dit « Ranime le don de Dieu qui est en toi. » 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Oui, le Saint-Esprit est le grand aide de la prière. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de traduire nos besoins réels en prière. Or, toute personne qui est née de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur dans son cœur, forcément a reçu le Saint-Esprit en lui, en elle. N'oublions pas cela, car sans le Saint-Esprit, il ne pourrait même pas prier. Nous ne pouvons pas demander comme nous le devrions, évidemment. Toutefois, il est dit que le Saint-Esprit s'en charge à notre place. Donc, il est possible que ceux qui ne reçoivent pas son aide demandent mal. Or, le Saint-Esprit l'Esprit Saint en nous peut préserver de cela. Aucune main faible ou tremblante n'ose mettre une immense force en mouvement. Pouvons-nous, osons-nous, chers amis, faire mouvoir la main qui remue l'univers? Non, non, non. À moins que, évidemment, l'Esprit Saint en nous n'ait la souveraineté sur nous. Oui, nous avons besoin de l'aide divine pour la prière et nous l'avons. Combien la Trinité, elle prend plaisir à la prière. Dieu le Père, il écoute. Le Saint-Esprit nous guide. Et le Fils prie et intercède lui-même pour nous. Ainsi, chers frères et sœurs et chers amis, la réponse vient d'en haut. Croyez-moi, la prière est notre plus grand privilège, notre responsabilité la plus lourde et la plus grande puissance que Dieu ait remise entre nos mains. La prière, la véritable prière, c'est l'acte le plus noble, le plus grand et le plus prodigieux qu'un homme, qu'une femme puisse accomplir. La prière est la plus grande énergie dont la nature humaine soit capable. Oui, priez de tout son cœur, mon cher ami, et de toute sa force, c'est l'exploit le plus haut et le plus grand dans le combat de la foi que le chrétien livre sur cette terre. Oui, Seigneur, enseigne-nous à prier. Chers amis, nous allons terminer par la prière et je voudrais vous dire quelques paroles d'un très ancien cantique et nous pourrons ainsi terminer par la prière. Ce cantique, les mots sont les suivants. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. Le jour, je suis sous ta lumière. La nuit, je repose en ton sein. Au matin, ton regard m'éclaire et m'ouvre un facile chemin. Et chaque soir, ô mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Prions. Père céleste, que notre âme s'attache toujours plus étroitement à toi et que nous puissions te dire en tout temps « L'Éternel est ma portion ». C'est pourquoi j'espérais en lui. Que craindrons-nous, Seigneur, si nous pouvons nous appliquer cette promesse « Ils seront miens », a dit l'Éternel des armées, lorsque je mettrai à part ce que j'ai de plus précieux et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Ta présence adorable sera pour nous, pour moi, un secours de tous les instants, pour nous aider à résister au péché et pour nous consoler dans l'épreuve. Ô veuille Seigneur, nous donner un sentiment vif et continuel de ta sainte présence. Rappelle-nous que nous avons un Sauveur vivant qui, après être mort et ressuscité pour nous, et entrer dans les lieux célestes comme notre précurseur, oh, que nous poursuivions constamment la course qui nous est proposée en regardant à lui, le chef et le consommateur de la foi. Ô notre Sauveur, fortifie nos cœurs et nos mains pour ton service, afin que ton saint nom soit glorifié parmi nous, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni éternellement, et auquel nous rendons l'adoration à jamais. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, et j'espère que vous continuerez à écouter cette série sur la prière qui va continuer encore un bon moment, car la prière, croyez-le ou pas, c'est la plus importante chose, le plus important ministère dans tout ce que représente la parole de Dieu. Et pour nous, la vie sur cette terre. Donc, nous allons continuer sur le thème de la prière. À bientôt à nouveau, mes très chers amis. Soyez bénis. Au revoir.